Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive et aux familles atypiques. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras ou presque. Avocate en droit des affaires, Johanna consacre ses jeunes années à sa carrière professionnelle. Vers 36 ans, le désir d'enfant éclot timidement, puis plus intensément. Elle va vivre deux grossesses et une fausse couche sur fond de discours anxiogènes et hyper médicalisés. Et pourtant, elle ne regrette pour rien au monde cette maternité tardive et parfaitement assumée. Bonjour Johanna.
Bonjour Anne-Lise.
On a mis un peu de temps à trouver un créneau, mais oui. On l'a trouvé. Et donc, je suis là avec toi et avec ton bout de chou.
Merci de me recevoir, en tout cas. Ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi.
Nous allons donc parler de maternité tardive. Avant tout, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots à nos auditeurs, que tu me dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille.
Oui, alors je suis Johanna, j'ai donc 40 ans, paraît-il. Dans ma famille, j'ai deux enfants, deux chats et j'ai un troisième bébé qui est plutôt le premier, à vrai dire, qui est mon boulot. Mon job d'avocat que j'exerce depuis bientôt 15 ans aujourd'hui et qui est vraiment ce qui a toujours été une passion, une évidence pour moi.
J'ajoute que tu es aussi maman blogueuse et que tu tiens le blog Les Papotages de Nana.
Alors ça, c'est un passe-temps,
C'est plus un passe-temps.
Bon, qui existe depuis 11 ans, mais donc ça prend aussi un petit peu de temps. Mais c'est sur mon temps libre et c'est plus ma petite parenthèse quand j'ai le temps, parce qu'aujourd'hui, ça devient précieux, le temps.
Ouais, j'imagine.
Voilà.
Ok, donc tu vas nous raconter comment tu es devenue maman, un peu plus tardivement que la moyenne, et par quelles aventures tu es passée. Mais j'aimerais qu'on commence par parler du désir d'enfant. Était-ce une évidence pour toi de devenir mère ?
Alors pas du tout. C'était quelque chose de tout à fait, je dirais pas exclu, mais de très lointain, de très abstrait. C'était peut-être pas pour moi. En tout cas, j'ai eu beau rencontrer mon cher et tendre très jeune, puisqu'on avait 18 ans. J'avais pas forcément cette idée en tête de devenir mère un jour, ni de me marier d'ailleurs. Le parcours classique ne m'intéressait pas. J'ai toujours été un peu un électron libre à vouloir faire à contre-courant de ce qu'il faut faire. Je savais que, en revanche, ce qui m'importait, c'était d'être indépendante, d'avoir un métier que j'aime, me lever le matin en ayant la banane et me dire voilà, j'aime ce que je fais, mes journées sont bien remplies et elles ont un sens. Et après, advienne que pourra. Voilà.
Est-ce que c'est facile à vivre, ce genre de choix ? Est-ce que c'est facile à assumer le fait, entre guillemets, de faire passer sa carrière avant sa famille, avant de devenir mère en tout cas ?
Alors c'est facile, oui et non. C'est facile parce que j'ai une famille qui m'a toujours soutenue dans cette idée, une maman qui m'a toujours dit, de toute façon, ce qui est important, c'est que tu sois épanouie dans la vie, avec ou sans enfant, peu importe, et mariée, pas mariée, c'est pas ça qui compte. C'est un peu plus difficile dans le regard des autres parce que on a belle-maman qui nous rappelle régulièrement « moi j'aimerais bien avoir des petits-enfants, j'aimerais bien que vous vous mariez, j'aimerais bien » des choses comme ça. Le problème c'est que c'est pas forcément toujours compatible avec des longues études qui demandent beaucoup de concentration, beaucoup de temps, etc. Et puis on voit autour de soi les copines qui commencent également à se marier et puis qui te posent le schéma la maison, le chien, les enfants, etc. Mais et moi après, j'ai un peu un caractère de cochon, donc je me mettais des écoutilles, je me disais je m'en fiche ce que pensent les autres, ma vie c'est la mienne. C'est pas parce qu'on me pose ces questions-là que je dois faire ce qu'on attend de moi, parce que c'est pas les autres qui élèveront mes enfants le jour où j'en aurai.
Est-ce que tu as eu des pressions de la part de ton gynéco aussi, régulièrement, entre 30 et 35 ans ?
Oui, alors il faut savoir que j'ai pris la pilule relativement jeune, comme beaucoup, aux alentours de 18 ans, quand on a commencé à être en couple sérieusement avec mon cher et tendre. Et vers 33 ans, quelque chose comme ça, je fais ma visite chez le gynéco classique pour renouveler ma pilule. Et là, le médecin me dit « Bon, à votre âge, je ne vous la prescris plus parce qu'il serait quand même temps de songer à faire des enfants. En plus, vous avez pris la pilule pendant longtemps, donc si ça se trouve, ça ne marchera pas tout de suite. Donc, il faut le temps que ça se remette en route. Moi, je ne vous la prescris pas. » Voilà, donc s'ensuit un peu le parcours du combattant de trouver un médecin qui veut bien te prescrire une pilule.
Et tu as eu du mal à en trouver à 35 ans ?
Disons que le discours revenait régulièrement. Non mais madame, à votre âge, je leur explique gentiment que c'est pas mon projet, c'est pas mon parcours, que j'ai un cabinet d'avocats à faire tourner, qui est mon premier bébé, qui sera peut-être mon seul bébé d'ailleurs, avec mes deux chats, que je suis très bien comme ça et que j'ai pas forcément envie de suivre le parcours classique de tout le monde, que quand le déclic viendra, c'est certainement pas parce qu'un gynéco ou un médecin m'aura dit de le faire.
Ton compagnon était d'accord avec toi sur le fait d'attendre pour faire des enfants ? Ou c'est quelque chose qui le travaillait un peu plus ?
Alors, je lui ai pas vraiment laissé le choix. C'est vrai que lui est entré dans la vie active beaucoup plus jeune que moi. Lui voulait se marier, lui voulait avoir des enfants. C'était une évidence pour lui. Et si au début, il était assez coulant sur la question, vers effectivement 35-36, il a commencé à me dire « Tu sais, moi, je veux pas finir ma vie sans avoir laissé mon empreinte sur cette terre, entre guillemets. Si ça doit pas être avec toi, il faut que tu me le dises vraiment. » J'ai commencé à lui dire « Écoute, je veux bien commencer à réfléchir un peu à la question. »
Et voilà. Du coup, est-ce qu'à un moment, toi, tu as eu un déclic ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, je pourrais pas dire que j'ai eu un déclic. Je me suis dit « Bon, j'ai 36 ans. » Je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mes pompes. Est-ce que j'ai pas envie de me rajouter un challenge de plus ? Et pourquoi pas tenter l'aventure ? Et puis de toute façon, effectivement, ça risque de prendre un petit peu de temps puisque j'ai quand même pris la pilule pendant 18, 20 ans, un truc comme ça. Et puis je m'en remets un peu au ciel, entre guillemets. Je me dis, si ça vient, très bien. Si ça vient pas, c'est que je suis pas faite pour ça. Et donc pour la petite histoire, on part 3 jours au Maroc pour se reposer un petit peu. Et je me rends compte donc, en rentrant à Paris en mai, que j'ai ramené avec moi un petit clandestin. Et que donc je suis enceinte. C'est quelque chose de complètement nouveau, de complètement... Enfin, c'est l'aventure. Donc je ne sais pas du tout où je mets les pieds. Mais c'est surtout l'angoisse qui pointe en premier, où je me dis, zut, zut, zut. Là, on rigole plus. Ma vie entière va complètement changer. On n'est plus du tout dans la vie légère de mes chats, mon cabinet, mon mec. Voilà.
D'accord. Et comment se passent ces 9 mois ?
Ça se passe de manière très ambivalente. D'un côté, je le vis de manière extrêmement sereine. J'ai comme une espèce d'instinct maternel qui me dit « T'inquiète, ça va bien se passer, tu vas gérer comme un chef. » Et puis, j'ai tous les rendez-vous médicaux, d'aller chez le gynéco, d'aller faire les prises de sang, etc. etc. où là, pour le coup, on me ramène à une réalité extrêmement terre-à-terre et extrêmement dure, violente. Où on me dit, ah mais de toute façon, vous, il va falloir vous surveiller un peu plus que la normale parce que vous êtes plus âgé que les mamans habituelles. Donc,
on rappelle juste que tu as 36 ans.
J'ai 36 ans, oui.
Donc on est quand même très loin de la quarantaine.
Ah oui, complètement, complètement.
Et on te dit à 36 ans, vous êtes plus âgé, donc vous allez avoir un suivi particulier.
Oui. Oui, on me dit à 36 ans, vous faites partie des femmes un peu plus à risque, parce que plus âgées. Et puis comme c'est un premier, on ne sait pas s'il peut y avoir des problèmes, etc. Des problèmes de santé, des problèmes héréditaires. On me déroule toute la liste des choses un peu dures, un peu horribles, auxquelles il faut faire attention pendant une grossesse. Et là, je me dis, waouh, la grossesse sereine, elle est loin quand même, hein. Je vais à chaque rendez-vous médical avec une espèce de boule au ventre en me disant « qu'est-ce qu'on va me sortir aujourd'hui ?»
Parce que concrètement, ça se passe comment ? On te fait plus de prises de sang, plus d'échographie ?
Alors, prise de sang, bah, de toute façon, tous les mois à cause de la toxo et compagnie. Et j'ai un rendez-vous par mois chez ma gynéco qui, pour le coup, me fait faire effectivement tous les mois une échographie. Et qui va même m'en faire faire un petit peu plus qu'une par mois parce que au cours de l'évolution de cette grossesse, elle va me dire, mais votre bébé prend peu de poids, grandit peu. C'est un tout petit bébé. Alors, c'est là où le discours aussi est un peu ambivalent, parce qu'elle me dit, moi, je ne m'inquiète pas parce que vous êtes un petit gabarit, vous êtes né en étant petite, etc. Les antécédents familiaux font que, voilà. Mais on va quand même vous surveiller un petit peu plus parce qu'il peut y avoir des problèmes congénitaux, je ne sais pas trop quoi. Et il faut suivre que votre bébé prenne bien du poids tous les mois parce que si ce n'est pas le cas, il faudra songer assez rapidement à un déclenchement et peut-être à faire naître votre fille plus tôt pour qu'elle prenne plus de poids en couveuse que vous n'êtes capable de lui faire prendre comme poids à l'intérieur de votre corps. Alors, elle ne me le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'entends.
C'est pas du tout culpabilisant comme discours, ça.
C'est ça, exactement. Sachant que pendant cette grossesse, j'ai pris très peu de ventre, très peu de poids. Pourtant, j'étais jamais malade, aucun symptôme, pas de nausée.
Tu faisais pas de régime particulier.
Je ne faisais rien, je mangeais normalement. J'ai vraiment eu la grossesse de rêve que toutes les femmes veulent avoir. Mais on me dit, vous ne donnez pas ce qu'il faut à votre enfant.
Ça t'a un petit peu gâché ta grossesse ou bon, tu as réussi quand même à,
alors,
à faire sur la part
le
des
moment,
choses.
Sur le moment, non, parce que je me disais, je m'écoute moi, c'est pas eux qui vont décider pour moi. Mon instinct maternel est plus fort que tout le reste. Faut savoir qu'à partir du 7e mois, ma gynéco m'a dit « Bon, bah maintenant, vous allez être suivi à la maternité. » Et eux, ils vont être beaucoup moins cool que moi. Ils vont vous faire des échos, des monitos tous les 15 jours, voire peut-être même plus si bébé grandit pas bien. Et puis, ils vont vous parler de déclenchement. Et effectivement, j'arrive à la maternité et encore une fois, discours ambivalent. « Bon, alors, il paraît que vous avez un petit bébé. Bon, bah on va surveiller ça. » Et effectivement, tous les 15 jours, j'ai droit à des monitos, à des échos. Bref, le parcours hyper médicalisé. Mais bizarrement, à chaque fois que je vais à un rendez-vous, il se conclut par « Mais on comprend pas pourquoi vous êtes là, votre bébé, il prend du poids parfaitement, tout va bien, elle a un rythme cardiaque parfait, il n'y a aucune raison. » Et à partir du mois de décembre, on me dit « Bon, ben, si bébé grandit plus, on vous déclenche dans 15 jours. » 8e mois se passe, et puis arrive mi-janvier, et là, on commence à me suivre encore plus régulièrement. Donc là, c'est toutes les semaines, hein, les monitos. Et finalement, ma fille va se pointer tout à fait naturellement. Je vais perdre les os dans la nuit du 28 janvier. Je me dis, cool, on ne m'a pas déclenché. Je suis arrivée quasiment à terme. On était à 39 semaines et 6 jours, un
truc
comme
ça. Tout ce qu'on m'a raconté jusqu'ici, finalement,
voilà, tout ce qu'on m'a dit ne s'est pas produit. Donc, je prends ma douche, je me prépare, etc. Puis, on file à la maternité. Et là, j'arrive... La sage-femme qui me reçoit me dit « On va vérifier que vous ayez perdu les os vraiment. » Elle vérifie, elle me fait un monito, elle me dit « Ah bah oui, effectivement, vous avez perdu les os. Par contre, vous n'êtes pas beaucoup dilaté, voire pas du tout. Vous n'avez pas de contraction douloureuse, donc c'est que le travail, c'est pas pour tout de suite. Je vous emmène en chambre et puis on se revoit dans la nuit ou demain matin quand le travail commence à se déclencher. » Là, douche froide, je me dis « Quoi ? Mais je croyais que quand la poche s'était rompue, c'était dans les 2 heures, j'ai mon bébé dans les bras, merci, au revoir. » Eh ben non. Donc on m'amène en chambre et je vais passer comme ça 40 heures dans mon lit d'hôpital à être examinée, à avoir un shoot d'antibiotiques toutes les 6 ou 12 heures, je ne sais plus exactement, parce qu'à partir du moment où la poche est rompue, il y a des risques d'infection pour le bébé, donc il faut « stériliser » entre guillemets le terrain. Bon, là, quand même, les heures défilent et puis je vois qu'il ne se passe toujours rien. Donc, le moral commence à chuter un peu. La nuit, c'est compliqué parce que j'entends les bébés qui pleurent et moi, il est toujours au chaud dans mon ventre, ce bébé. Et puis, je commence à m'éloigner doucement de l'espoir d'avoir un bébé qui va arriver vite après avoir percé la poche des os, quoi. Et plus je me fais examiner, plus c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, on me dit même, mais madame, on ne peut pas vous examiner toutes les 4 heures parce que d'abord, il y a un terrain infectieux qui s'est installé, donc moins on y va, mieux c'est. Et puis, c'est à vous de faire le travail, c'est pas à nous de venir titiller les choses. 2e nuit où il ne se passe toujours rien. Et puis le dimanche matin, on me réveille et on me dit « Bon, bah madame, allez, on va monter au 3e et puis on va un peu accélérer le processus parce que là... Là, c'est bon, quoi. Donc, on me déclenche. Il ne se passe pas grand-chose. On me met un tampon et puis bah, j'attends que les choses se fassent. Et on me dit, logiquement, dans les 2 heures qui viennent, là, vous allez avoir des contractions vraiment très douloureuses. Et normalement, d'ici 4 heures, vous avez accouché. Pas du tout. Il était 10 heures du matin à ce moment-là. Et jusqu'à 17 heures, toujours rien à signaler. Ça fait une trentaine d'heures que je suis là et il ne se passe toujours rien. Là, je commence à voir arriver la césarienne en urgence et tout le processus que j'avais pas envie de vivre. Donc, je descends dans le jardin, je commence à faire des allers-retours en long, en large et en travers. Et puis, vers 17h, je commence à sentir vaguement des petites douleurs de règles. Et je me dis, ah, c'est peut-être ça. Et en remontant dans la chambre, donc pour me changer pour la énième fois, là, je commence à avoir des vraies contractions douloureuses qui me scotche sur place, qui m'empêche de respirer. On m'examine et on me dit « Vous êtes à 1, à 2, là, il faut attendre d'être à 3 pour pouvoir bénéficier de la péridurale, donc faites un peu de ballon et on revient dans 1 heure. » Au bout d'1 heure, on revient me voir et on me dit « C'est bon, vous êtes à 3, vous avez droit à la péridurale. » Et là, je dis « Alléluia, merci mon Dieu, enfin, il va se passer un truc, enfin !» Donc, j'ai droit à ma péridurale. Ça marche tout de suite du feu de Dieu, je reprends des couleurs, je reprends vie. Et je dis même, j'ai faim. Les gars, je veux manger. Et on me répond, ah non, non, mais vous n'avez pas compris, madame, avec la péridurale, vous n'avez plus le droit ni de boire ni de manger jusqu'à ce que bébé arrive. Alors on m'autorise vaguement une gorgée d'eau qui me colle une nausée monstrueuse. Je dis, ok, c'est bon, je ne mange pas. Et on attend une heure, deux heures. En gros, je suis à dilatation complète à minuit. Et on me dit, mais on va quand même se laisser le temps que le bébé descende tout seul. Donc on me met dans plein de positions et tout. Mais moi, je leur dis, mais non, non, allez, on y va là. On y va, je la sens qui pousse. On y va. Je veux qu'elle arrive, quoi. Et en parallèle, je leur dis, mais par contre, la péridurale, elle fonctionne pas très bien. À droite, j'ai une vraie douleur insistante. Donc on me recolle une dose de péri. Et on me dit, bon, bah c'est bon, là... vous allez pouvoir commencer à pousser. Et en fait, va commencer l'épreuve que j'attendais pas du tout, parce que je me dis, j'ai la péri, je gère, tout va bien, super. La fille naïve jusqu'au bout, hein, qui, malgré
oui,
les étapes...
C'est un peu le discours qu'on tient aussi pendant les préparations à l'accouchement. Hein. Vous allez avoir la péridurale, vous sentirez moins la douleur, vous allez pouvoir pousser quand même,
oui.
Et tout va bien se passer.
Oui, mais l'erreur dans tout ça, c'était d'avoir réclamé une dose supplémentaire de péridurale juste avant qu'on me dise de pousser, parce qu'elle était tellement forte... que je ne sentais plus les contractions, je ne sentais plus mes jambes, je ne sentais plus rien. Et quand on m'a dit « il faut pousser », je me suis demandé ce qu'on attendait de moi. Et on me disait « non, non, mais là, il faut pousser. Ben, c'est ce que je suis en train de faire. »« Ah non, vous n'êtes pas en train de pousser, là. Comment ça, je ne pousse pas ? Il va falloir y aller davantage, madame. » Donc ça a duré comme ça une vingtaine de minutes. Et puis, d'un coup, tout s'accélère. J'entends le rythme cardiaque qui chute complètement. D'un coup, on lève un drap devant moi. Et je vois un médecin arriver avec ses gants façon Édouard aux mains d'argent. Et on me dit, il faut continuer à pousser. Je vois la tête de mon chéri complètement déconfite. Et puis je vois le médecin qui s'agite. D'un coup, on me pose un bébé sur le torse. Je vois un petit cucu violet. Et on me le reprend et il s'en va.
Donc en gros, t'as pas eu la sensation ?
Non.
De
rien
sortie,
du tout.
Ni rien du tout.
Rien du tout. Je ne sais pas ce qu'on m'a fait, je ne
tout
sais pas ce qui s'est passé.
Tout ça d'une dose de péri probablement trop forte.
Trop forte,
ou,
oui.
Trop tôt, enfin bref.
Trop tôt, enfin une poussée peut-être trop tôt, une péri trop forte, enfin tout un enchaînement de choses, des sages-femmes qui n'ont pas beaucoup communiqué avec moi sur le moment. Puis le côté découverte, nouveauté, j'ai jamais accouché, je ne sais pas comment ça se fait. Ce n'est pas parce qu'on nous apprend certaines choses dans les livres ou dans les cours qu'on reproduit exactement le schéma. Donc je me retrouve toute seule dans la salle. On a demandé à mon chéri de partir avec le bébé. A priori, elle aurait bu la tasse, donc il l'emmène. On lui fait tous les premiers soins, etc. Et moi, pendant ce temps-là, on me recoue. Je découvre à ce moment-là que le médecin, il n'est pas venu pour mes beaux yeux, hein, mais il est venu pour utiliser les ventouses, les cuillères, les forceps, absolument tous les instruments possibles et imaginables.
Dont tu ne rêvais pas forcément.
Dont je ne rêvais absolument pas. Il m'a même fait une épisiotomie, bien comme il faut. Au bout d'un moment, on me ramène le bébé, alors du coup, qui était complètement habillé, hein, donc peau à peau, la tétée d'accueil, tous ces trucs-là, qu'on nous a proposé lors des cours, où on nous a dit « ça peut être bien de faire ça », etc. Alors pour moi, pas du tout. Hein.
Comment est-ce qu'on accueille un enfant après 40 heures de travail, après un accouchement un peu traumatisant ? Comment ça se passe ?
Complètement sonné, complètement abasourdi. J'en retiens surtout que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai ce bébé contre moi. Il y a un truc qui se passe entre elle et moi. Elle me regarde avec son regard noir, perçant. Moi, je la renifle comme un animal qui renifle son petit. Et il se passe vraiment un truc, mais unique à ce moment-là.
Qui annule un peu tout ce qui s'est passé
tout ça.
Auparavant.
Qui annule tout ça et qui me dit, ma grande, ça valait le coup de le faire.
Et comment se passe le postpartum ?
À la fois très serein parce que j'ai enfin mon bébé qui est là. Toute la grossesse s'est terminée, ce discours culpabilisant sur vous êtes vieille, vous n'allez pas y arriver, etc. C'est derrière. Mais y a quand même maintenant la réalité qui prend le dessus, c'est la douleur, la fatigue... Mais finalement, ça se passe quand même relativement bien parce que je sais qu'à partir du moment où je vais rentrer chez moi, je vais faire comme je veux.
Et il y a une certaine évidence de la maternité.
Écoute, complètement, alors que je ne me voyais pas maman, même mon mari me dit « mais c'est pas possible, on dirait que tu as fait ça toute ta vie ».
C'est peut-être aussi parce que c'était le bon moment.
Sans doute, c'est enfin ce que j'attendais et la manière dont je l'envisageais par rapport à tout ce discours culpabilisant que j'ai eu pendant toute la grossesse, où on m'a quand même dit... Alors, je ne sais plus très bien si c'était une blagounette entre amis ou à la maternité ou des bruits de couloir ou quoi, mais j'ai quand même entendu le mot grossesse gériatrique.
À 36 ans.
À 36 ans.
C'est quand même fou.
Sur le coup, je rigolais en me disant, bah oui, oui, c'est sûr, à 36 ans, je suis vieille. Et au final, bah, ça m'a pas fait beaucoup rire parce que j'ai quand même eu un suivi, effectivement, très anxiogène, très attention, est-ce que tu vas réussir à faire naître un enfant ? Est-ce qu'il va naître à terme ? Est-ce qu'il va naître complètement constitué ? Est-ce qu'il va avoir deux bras, deux pieds, deux jambes, un poids correct, un cerveau qui fonctionne, etc. Mais je suis assez contente d'avoir fait confiance à mon instinct parce que tout ce discours-là, je l'ai mis loin, très loin.
Est-ce que tu penses justement que le fait d'avoir un peu vécu, d'avoir réussi des choses dans ta vie en amont de cette grossesse, ça t'a donné une confiance en toi ?
C'est possible.
C'est... Ouais, oui, et qu'à les... 25 ans, tu n'aurais peut-être pas eu le même aplomb par rapport à l'environnement médical.
Très certainement. L'âge n'est pas un sujet, mais je le vois plus comme gagner de l'expérience, gagner des points de vie finalement. À 40 ans aujourd'hui, je ne me sens pas plus vieille, plus jeune, plus ci, plus là. Je ne vois pas de différence avec des gens qui ont 10 ans de moins que moi. Mais par contre, je vois bien que en ayant eu cette grossesse à 36 ans, j'étais plus mature, plus d'expérience de la vie, de capacité à endurer les choses et à m'exprimer, à dire ce que je pense. C'est certain qu'à 25 ans, on m'aurait dit « attention, il faut vous déclencher ». Je serais morte d'inquiétude à l'idée de ne pas faire naître un enfant. Mmh. Aujourd'hui, j'ai un peu plus écouté mon instinct en me disant « mais je sais que j'ai raison au fond de moi ». Finalement, tout est question de statistiques. Il y en a qui sont mauvaises, mais il y en a qui sont très bonnes. Donc j'ai passé ma grossesse à me dire « et si ça se passait bien ?» Vraiment, voilà, je l'ai vécu comme ça. Et oui, certainement que l'expérience d'être un peu plus âgée m'a permis de prendre du recul, d'être plus sereine et de moins angoissée pour des bêtises.
Tu as 37 ans, justement, à l'arrivée de ce premier enfant.
Oui.
Tu as subi pas mal de pression par rapport à l'âge au cours de cette première grossesse. Est-ce que tu sens comme une urgence de faire un deuxième enfant ?
Alors oui et non. Après cette grossesse quand même pas très cool, même si je n'en ai gardé que le positif. Sur le moment, je me dis jamais. Mais d'un autre côté, je me dis est-ce que j'ai envie que ma fille grandisse en étant fille unique, sachant que je ne le suis pas moi-même, que mon chéri ne l'est pas. Donc je me dis, il faut quand même peut-être mettre de côté cette mauvaise expérience. Et puis bon, bah tant pis, ça va être une année compliquée, on va encore me gaver la tête à me dire que je suis vieille, que c'est compliqué, que je vais faire un petit bébé, enfin je me revois revivre le même parcours. Hein. Et puis bah, la question vient pas tout de suite non plus parce que ma fille ne fait pas du tout ses nuits jusqu'à ses 11 mois révolus. Donc c'est une année où je suis quand même très fatiguée. Je n'ai jamais vraiment arrêté de bosser pendant toute cette période-là, puisqu'en étant profession libérale, on s'arrête jamais vraiment.
Mmh. Du coup, à quel moment est-ce que tu te dis, bon, ça y est, c'est bon, on y retourne, je suis prête, ne perdons pas de temps.
Je crois que ma fille a à ce moment-là 15 mois, quelque chose comme ça. Ça fait 2-3 mois qu'on redort, qu'elle se met à faire ses nuits du jour au lendemain. Super, ça y est, c'est réglé, on n'est plus fatigué, on est en forme, donnons-lui un petit frère ou une petite sœur. Et on s'y remet. Là, cette deuxième fois, c'est un peu plus conscientisé dans ma tête. La deuxième grossesse va arriver très vite. Là encore, c'est pendant les vacances, à un moment où le cerveau est en pause, où ça se passe super bien, on est tranquille, on est tous les trois, c'est génial et tout, et on revient de vacances. Et là, je fais un test en sachant pertinemment ce que je vais y lire. Et puis, cette deuxième grossesse se passe super bien les trois premiers mois. Alors, on est tout content avec mon mari, c'est génial. Ma grande est hyper mignonne, hyper gentille, elle grandit bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis je vais au premier rendez-vous chez la gynéco, toujours la même. Mais sauf que cette fois, je suis préparée à ce qu'elle me dise « Oh ben vous êtes vieille, deuxième grossesse à 38 ans. » Ouais. Bizarrement, elle me dit « Mais vous n'êtes pas vieille. » Finalement, je me rends compte que c'est parce que c'est le deuxième. Donc une grossesse à 38 ans quand c'est le deuxième, c'est pas une première à 36. C'est un peu le monde à l'envers. Mmh. Et elle me fait donc la première écho, tout va bien. Je reviens 3 semaines plus tard pour une deuxième écho. Et là, le monde s'effondre. Elle me dit, madame, je suis désolée, mais la grossesse n'a pas évolué. Ça s'appelle une grossesse arrêtée.
Et là, tu es à 10 semaines, c'est ça ?
Oui, je suis à 10 semaines. J'ai un bébé à l'intérieur qui est mort et qui ne veut pas s'en aller. C'est très compliqué parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle me dit « Bon, bah maintenant, il faut aller à la maternité en urgence pour savoir s'ils vous gardent et s'ils vous font un curetage ou si un médicament suffit pour faire descendre l'œuf et pour l'expulser. Bon, j'arrive à la maternité, je pleure toutes les larmes de mon corps sur le trajet. Sébastien essaye tant bien que mal de me remonter le moral et me dit « mais c'est rien, c'est pas grave, t'inquiète, ça va aller, etc. » Tous les mots qu'il peut, mais tous les mots de l'univers ne pourront pas compenser ce que je viens d'apprendre et ce que je prends comme vraiment un uppercut. On arrive à la maternité, je suis très très bien suivie, très très bien accompagnée, entourée par le personnel médical qui fait de moi une urgence absolue et qui comprend qu'il ne faut pas me laisser dans la salle d'attente avec toutes ces femmes enceintes jusqu'aux yeux. Parce que c'est hyper violent d'être là comme ça, on se sent pas légitime d'être à la maternité, et encore moins légitime qu'on va passer devant tout le monde alors qu'elles sont en fin de grossesse avec un suivi, qu'elles doivent être fatiguées, elles doivent avoir des maux ci, là. Et moi, je vais bien, je suis mince, j'ai pas de symptômes, je ressemble pas à une femme enceinte, j'ai aucune raison d'être là, mais je passe en priorité. Et puis je pleure. Le chef de service de la maternité me reçoit. Il tient un discours absolument extraordinaire en me faisant comprendre que non, ce n'est pas un fait divers, non, ce n'est pas quelque chose de commun, de pas grave, que chaque femme vit ça comme elle le veut, comme elle le peut, et que si j'ai besoin d'aide, il sera toujours là, qu'il y a des équipes de psychologues au sein de la maternité pour en discuter, etc.
Ça fait du bien d'entendre un témoignage comme ça, parce que c'est quand même pas franchement le cas pour tout le monde, mais c'est... Voilà.
Oui. C'est peut-être le seul moment où j'arrive à avoir un sourire dans toute cette épreuve. Il m'explique que je vais prendre un médicament, que je vais faire ça tranquillement chez moi, que c'est quand même mieux, que même si c'est peut-être un peu douloureux, un peu compliqué à vivre... Au moins, je serai chez moi. Je vais prendre ce médicament le jour de la fête de la musique. Et je le ressens avec une espèce de violence. Enfin, j'ai l'impression d'être le condamné à mort à qui on demande de prendre lui-même le médicament qui va le tuer. C'est atroce. Je vis une journée absolument horrible. Sur le moment, je me dis, mais est-ce qu'il valait pas mieux être à la maternité ? Moi, je fais rien. On m'endort, je me réveille, c'est terminé, merci, au revoir. Et autour de moi, on me dit « Non, mais c'est important que tu le fasses parce qu'il y a un processus de deuil et il faut que tu le vives, que tu ailles jusqu'au bout pour pouvoir t'en relever plus forte après. » J'ai des contractions qui sont les mêmes que celles que j'ai vécues pour mon accouchement. Sauf qu'à l'arrivée, j'expulse un œuf et j'ai pas un bébé. Ça prend quand même 4 jours, hein, entre le moment où je prends le médicament et le moment où l'œuf est expulsé. Donc 4 jours en plus à scruter parce qu'on dit qu'il faut que je vérifie. Ben, je m'en rends compte en allant aux toilettes, tout simplement, au milieu des saignements qui durent depuis 4 jours, ben, y a un saignement un peu plus important, un peu différent des autres, et ben c'est ça. Et là, je le sais, parce qu'on a beau scruter depuis 4 jours en se disant peut-être que je l'ai raté. Non, quand il est là,
ah, oui, c'est différent, là, on le sait. Il est bien là, quoi.
On le sait, il n'y a pas de doute, et bizarrement, à ce moment-là, je me sens plus légère. Bon, après, j'ai quand même un petit suivi derrière pour vérifier que l'utérus est bien remis à sa place, que tout refonctionne, etc. Mais grosso modo, 3 semaines plus tard, on me dit « Madame, vous êtes bonne pour le service. Si vous voulez retenter l'aventure, vous pouvez y aller. »
Et là, tu te dis quoi ? Tu te dis « J'y retourne tout de suite. » Est-ce qu'il y a une question de temps à ce moment-là ?
Il y a...
Tu as donc 38 ans.
Alors là, j'ai 38 ans, quasiment 39. Je me dis, toute façon, s'il doit y avoir un deuxième enfant, ça sera avant 40 ans.
Pourquoi ce 40 ans ? Qu'est-ce que ça représente 40
ans
pour toi ?
Alors, c'est complètement psychologique. Hein. Mais je me dis, je ne veux pas essayer d'avoir des enfants ad vitam. Je ne veux pas qu'on rentre dans un parcours médical de prise de sang, de piqûres, etc. pour avoir un deuxième enfant à tout prix. J'ai toujours été dans le « c'est la nature qui décide ». Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, c'est qu'on n'était pas fait pour. Et donc, je me dis, la deadline, c'est 40 ans.
Donc là, tu retombes enceinte.
Donc là, je retombe enceinte.
Trois mois après. La fausse couche.
Ce sont les 3 mois les plus longs parce que là, pour le coup, c'est un vrai projet. Et je fais des tests tous les mois, juillet, août, septembre, il ne se passe rien. Je commence à déprimer un peu en me disant, c'est quand même long tout ça, pourquoi ? Et je me dis, je vais rester sur l'échec de cette deuxième grossesse qui n'a pas évolué. Et puis arrive le mois d'octobre et je retombe enceinte. Et alors que j'attendais ce petit bâton avec impatience et que je me disais ça va être super, je vais être trop contente qu'il soit sur positif et tout, et ben je ressens une énorme vague de colère, d'angoisse, de haine, il y a tout un tas de sentiments hyper négatifs qui ressortent en moi à ce moment-là.
Et ça vient d'où ça ? Comment tu t'expliques ? C'est le fait de vivre une grossesse dans l'ombre d'une autre ou...
Alors, sur le moment, j'arrive pas à me le dire comme ça. Sur le moment, je me dis que, comme ma fille ne dort pas bien, que je suis extrêmement fatiguée, je vais revivre la même chose que la deuxième grossesse. Je vais pas réussir à la mener à terme, que ce bébé va pas prendre parce que le contexte n'y est pas. Je suis en colère contre ma fille, contre moi, je culpabilise, contre mon mari, contre la terre entière, je trouve des bonnes raisons à tout.
Et qu'est-ce que ça a comme conséquence du coup sur la façon dont tu la vis ?
Elle se passe pas très bien, pas sur le plan médical, mais elle se passe pas très bien de mon point de vue à moi. Tous les matins, je me lève en me disant, est-ce que je vais saigner ? Est-ce que j'ai des symptômes ? Est-ce que j'ai ci ? Est-ce que j'ai là ? Est-ce que j'ai machin ? Je vais très certainement psychologiquement me créer tout un tas de symptômes. Je vomis pendant 4 mois, matin, midi et soir, la nuit, tout le temps, H24. C'est l'horreur intersidérale. Donc je décide de congédier ma gynéco. Et je me dis, j'ai besoin d'un suivi beaucoup plus light, beaucoup plus cool.
Et puis plus apaisant,
et bienveillant.
Moins stressant et bienveillant.
Voilà. Donc je vais voir la sage-femme qui m'avait suivie pour mon postpartum, pour ma grande, parce que je sais qu'elle va être dans un discours positif, elle va pas me dire « Ah bah Johanna, à 38 ans, 39 ans, vous êtes vieille, ah Johanna, on va vous faire 1000 échos pendant 9 mois ». Non, non, pas du tout. On écoute vaguement le cœur au Doppler à chaque rendez-vous, donc une fois par mois, et ça dure une minute à tout casser. Quand je vais chez elle, je suis bien, bizarrement j'ai plus de nausées quand j'y vais, j'ai plus de problèmes, tout rentre dans l'ordre pendant la petite heure où je suis avec elle.
Est-ce que tu finis par réussir à investir cette grossesse au fur et à mesure ?
Alors ça prend énormément de temps. Je décide, pour vivre cette grossesse au mieux, d'avoir donc ce suivi chez ma sage-femme et de faire plusieurs activités, notamment du yoga prénatal à partir du début du 4e mois. Je fais de la méditation, je fais de l'acupuncture, je fais... voilà. Et ça m'a fait énormément de bien. Aussi étrange que ça puisse paraître, alors que j'ai eu des maux quasiment tout du long, les dernières semaines, à partir du moment où je sais que, ça y est, cet enfant est viable, il peut arriver à tout moment, et ben je me mets à péter le feu.
Ce deuxième accouchement, est-ce qu'il était très différent du premier ?
Alors, il était... aux antipodes. Déjà, je suis allée jusqu'au terme, jusqu'au bout du bout. Au beau milieu de la nuit, petit matin, je perds les os. Je prends mon petit-déj et je dis à mon chéri, il va falloir songer à y aller parce que les contractions commencent à être un peu rapprochées, j'ai perdu les os, tout ça, tout ça. Donc je pense que c'est pour aujourd'hui. On file à la maternité. La sage-femme me reçoit et me dit, bon, ben, on va aller directement en salle d'accouchement parce que vous êtes à un bon 3. Et arrivé en salle de travail, j'explique à la sage-femme que je veux pas la péridurale tout de suite parce que j'ai pas suffisamment mal, que je veux faire un travail sur le ballon comme j'ai appris pendant les cours de yoga prénatal. Et je lui dis, je veux prendre mon temps. C'est sans doute mon dernier bébé. Je veux profiter de cet accouchement, vraiment en être actrice, le faire bien, que ce soit un travail d'équipe avec le bébé. Et je veux pas d'instrument, je veux vraiment qu'il vienne naturellement quand lui aura décidé.
Tu veux tout l'inverse du premier ?
Tout l'inverse du premier, bien sûr. Et elle me dit, Johanna, aucun problème, de toute façon, moi je suis contre les épisios. Les instruments, je m'en sers pas, j'ai deux mains qui sont des instruments mieux que tout le reste. Donc vous inquiétez pas, c'est pas avec moi que vous subirez tout ça. Et on fera le travail que vous voudrez, ça prendra le temps que ça prendra.
Donc c'est un peu comme si tu avais écrit un projet de naissance avec la sage-femme.
Mais ça a été incroyable, on était sur la même longueur d'onde, je commençais une phrase, elle l'a terminée. Donc on me met la péridurale, mais elle est très très peu dosée. Ça m'enlève pas la sensation, je sens les contractions, je les sens monter, je les sens arriver. Je peux faire mon travail sur le ballon et on utilise plein de positions, on fait plein de choses différentes.
En fait, tu vis un accouchement assez physiologique.
Complètement.
C'est naturel. Bon,
hormis la péridurale,
tu vis quelque chose qui se rapproche vraiment des accouchements les plus simples. Enfin,
ouais.
Le fait de changer de position, c'est rare, assez exceptionnel en France d'ailleurs.
Mais la sage-femme est vraiment géniale. Et je sens vraiment le bébé qui descend. Je sais exactement où il est et le chemin qu'il prend pour arriver. En 3 poussées, il est là. Alors évidemment, je sens tout, ça fait mal, hein, on va pas se le cacher, le moment du passage est quand même très douloureux, mais c'est une douleur éphémère et c'est une douleur positive. Et là, elle me le pose sur moi, et je peux faire du pot à pot avec ce bébé. Je recherche ce moment que j'ai vécu un peu animal avec ma fille, et ça viendra pas. Je n'arrive pas à avoir ce moment de connexion avec ce bébé, Et en plus, on me l'a positionné de telle manière que moi, je le vois, mais lui ne me voit pas. Donc, on n'arrive pas à croiser nos regards. Et à ce moment-là, je prends conscience que, bah, en fait, je suis en train de vivre une nouvelle maternité. C'est autre chose. Et je suis très, très contente de cet accouchement et d'être maman d'un garçon. Parce que, bah, on clôt la page de la deuxième grossesse, qui est une grossesse arrêtée. Et on termine les épisodes maternité sur une note super positive, avec un accouchement de rêve, avec, dans les jours qui suivent, un postpartum, mais pareil, de rêve, on me fait sortir même pas 48 heures après avoir accouché. Je me fais examiner par la sage-femme au bout de 48 heures et elle me dit « Mais Johanna, votre utérus, il est quasiment déjà remis à sa place. » J'ai très peu de douleurs, très peu de saignements.
Ouais, donc quelque chose, encore une fois, de très facile alors que tu viens de fêter tes 40 ans.
Bah oui, voilà, bah oui, complètement.
Donc, pas du tout dans l'ordre des choses, en fait.
Bah non, hein, bah non. Et je me dis, bah, finalement, l'âge... Mais non, encore une fois, c'est pas un sujet, c'est pas une problématique. C'est juste une question de ressenti, une question de comment on vit sa vie, de quelles sont les expériences qu'on a tirées par le passé, etc. D'avoir vécu peut-être une première grossesse compliquée, enfin pas compliquée, hein, puisque bon, bah, c'est plutôt bien passé, mais d'avoir toute cette hyper-médicalisation et puis le côté grossesse gériatrique, qu'est-ce que j'aime pas ce terme.
C'est atroce.
C'est sûr que ça m'a ramené, ça m'a un
malgré
petit,
toi,
malgré
à la
moi,
réalité
à la réalité. Et j'ai encore plus décidé que ça ne serait pas un sujet, que ça ne serait pas un problème. Donc voilà, et encore aujourd'hui, quand on me demande mon âge, j'ai du mal à dire que j'ai 40 ans parce que je ne m'en rends pas compte.
Est-ce que tu te projettes un peu dans l'avenir? Est-ce que tu fais quand même de temps en temps des calculs qui peuvent être parfois un peu anxiogènes, du style « quand il aura 20 ans, j'en aurai 60 »
Ben, c'est peut-être le seul...
Ou est-ce que tu te demandes comment est-ce que tu peux l'accompagner dans le temps?
C'est peut-être le seul sujet qui me pose un peu problème aujourd'hui. Et alors encore, c'est uniquement théorique parce que je ne peux pas prédire l'avenir, je ne sais pas.
Bien sûr.
C'est vrai que quand je le verbalise... Il aura 20 ans, j'en aurai 60. Je trouve pas ça très joli. Et puis je me dis, peut-être que je vais pas pouvoir les accompagner dans la vie aussi loin que j'aimerais. J'ai la chance d'avoir encore mes parents qui sont en bonne santé tous les deux à 40 ans. Alors qu'autour de moi, je vois un peu des exemples de gens qui commencent à perdre leurs parents. Je me dis, c'est quand même un peu tôt. Après, ça va, ça vient. Hein. Je me pose pas trop non plus de questions. Je me dis, j'ai vécu jusqu'ici très très bien. On verra.
Bien sûr.
On verra.
Est-ce que tu as la sensation que l'âge fait que tu éduques tes enfants différemment?
Non,
est-ce que tu aurais été la même mère à 25 ans qu'à 40 ans?
Je pense
sur les
que...
choix éducatifs, sur la peut-être je sais pas les priorités. Que
je
tu
pense
vas
que
donner.
Les grands principes auraient été les mêmes parce que j'essaye d'éduquer mes enfants avec certaines valeurs qui sont celles qu'on m'a enseigné quand j'étais enfant. Donc il y a des valeurs vraiment sur lesquelles j'aurais été intransigeante à tout âge, c'est sûr. Maintenant, je pense que je suis peut-être un peu plus coulante en étant plus âgée parce que, encore une fois, avec l'expérience, je me dis, et après tout, quel est le problème? Pourquoi faire de cette petite chose des caisses et des caisses alors que ça n'est qu'une petite chose? Je relativise sur la vie, je relativise sur le quotidien, je relativise sur plein de choses. Les grands principes, ils sont posés, ils sont là. Après, pour le reste, est-ce que ma fille veut mettre des collants en laine au mois de septembre alors qu'il fait encore 20 degrés? Eh ben, elle met des collants en laine, c'est
couler.
Pas grave, oui.
C'est
voilà.
Ça. Il y a quelque chose de plus zen, de plus cool.
Complètement, complètement, oui, oui.
Est-ce que tu te sens un peu en décalage par rapport à tes copines qui ont le même âge et qui ont peut-être fait des enfants 10 ans plus tôt?
Pas forcément. Parce que j'ai plusieurs cercles, en fait, d'amis. J'ai celles qui sont plus jeunes et qui ont les enfants du même âge que les miens, avec lesquelles je me sens très en phase sur ces sujets-là. Et les copines qui ont mon âge, mais qui ont fait des enfants plus tôt, pour le coup, c'est des filles qui vont être des consoeurs dans les mêmes métiers juridiques que moi. Donc, on a d'autres centres d'intérêt. Et je suis un peu entre les deux, en fait. Donc, je me reconnais chez les unes, je me reconnais chez les autres. Mais après, comme je t'ai dit en cet début d'interview, je suis un peu un électron libre. Même si je me sens des affinités auprès de certaines, auprès d'autres, je me sens jamais non plus complètement la même que tout le monde. Mmh. Et je suis moi, je suis ce que je suis. Et je suis très bien comme ça. Oui, je me pose pas trop de questions. J'essaye pas d'être dans les codes ou de... Je le vis plutôt bien.
D'accord. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou un conseil à donner aux femmes qui, comme toi, choisissent de faire un enfant un peu plus tard que la moyenne ?
Eh ben, je dirais qu'il faut suivre son instinct, que si on a décidé de faire des enfants plus tard, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui fait que, et ne pas se laisser embarquer par les discours médicaux peut-être un peu terre à terre et qui ne sont basés que sur des statistiques et où on essaye de couvrir la responsabilité d'un médecin au lieu de prendre en compte le cheminement psychologique de la femme. Donc vraiment c'est ça, écouter son instinct.
Ok. Merci beaucoup, Johanna, de m'avoir confié ton histoire. Ton témoignage nous montre bien qu'il n'y a pas d'âge pour devenir mère. Je rappelle aussi que tu tiens le blog Les Papotages de Nana, où tu partages ton quotidien et tes conseils de maman, et qu'on peut suivre ton actualité sur Facebook et sur Instagram. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré, peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à déposer quelques étoiles sur Apple Podcasts et surtout à le partager au plus grand nombre. À très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.